Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Êtes-vous hypocrite? Il est peu probable que vous répondiez spontanément par l'affirmative, tant cette disposition d'esprit apparaît comme un irrémédiable défaut en ces temps de transparence absolue. Et pourtant, nous le sommes tous hypocrites à divers degrés, avec les autres et avec nous-mêmes, que celui qui ne l'a jamais été jette la première pierre. Une hypocrisie à géométrie variable, avec des intentions plus ou moins louables, plus ou moins perverses. Hypocrisie sociale, pour ne pas faire perdre la face à l'autre. Hypocrisie bienveillante, pour ne pas blesser. Hypocrisie malveillante, quand on déteste un collègue en petit comité, tout en lui tressant des lauriers en public. Hypocrisie à la Tartuffe, quand nos actes sont en complet décalage avec nos dissertations vertueuses. Mes complices cet après-midi, Éric Libiot et Marie-Laure Zonshein. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Toutes les vérités sont pas bonnes à dire.
Dans la société, on a besoin d'être hypocrite finalement. Il faut pas tout dire, il faut savoir se taire de temps en temps.
Pour moi, l'hypocrisie, il y en a tous les jours dans la société. Mais ça a été complètement accepté.
C'est direct, ça sort et c'est parfois désagréable pour les gens parce qu'ils n'aiment pas quand les gens leur disent les vérités.
Au collège, ils nous disent qu'ils nous aiment bien, mais en fait, ils vont parler dans notre dos.
Tout le monde veut être bien vu, avoir une double face un peu quoi. C'est le truc facile, au lieu de dire tes chaussures sont moches, je vais dire tes chaussures sont bien. Ça maintient un rapport, moi je suis bien vu, lui il se sent bien et en fin de compte, après je vais aller dire à quelqu'un que je les aime pas.
Quelqu'un qui n'a pas le niveau dans le métier, on n'ose pas trop le dire, mais par contre on le dira peut-être derrière lui.
Ça sert à rien de ruminer dans son petit coin, dans sa petite tête. Moi, je te dis bonjour alors que, au fond de moi, je t'aime pas. Ta gueule me plaît pas.
J'ai beaucoup de mal avec l'hypocrisie ambiante et je trouve que la politesse, c'est un juste milieu entre cette forme d'hypocrisie qu'on a les uns vis-à-vis des autres et la franchise qui permet de dire à l'autre quand il fait n'importe quoi.
Propos recueillis dans les rues de Paris la semaine dernière et pour évoquer l'inépuisable thème de l'hypocrisie, deux invités. Bonjour Olivier Babot.
Bonjour.
Vous êtes professeur en sciences de la gestion à l'université de Bordeaux et vous présidez l'Institut Sapiens, un think tank d'inspiration libérale et vous publiez un livre assez formidable aux éditions du Cerf, un éloge de l'hypocrisie. Ça vous inspire quoi ce qu'on vient d'entendre là? L'ambivalence de l'hypocrisie.
Je suis assez agréablement surpris parce que je trouve que ça a été globalement très très positif. Donc moi je pensais être un des seuls à avoir cet esprit de subversion terrible dont m'accuse mon père depuis tout petit. Et finalement je me rends compte que c'est une ouverture à l'hypocrisie. J'ai trouvé que c'était très pertinent ce que tu as raconté. Oui.
Bonjour Charles Danzig.
Bonjour Ali.
Écrivain, éditeur, vous produisez l'émission Personnage en personne sur France Culture et vous publiez un excellent dictionnaire égoïste de la littérature mondiale aux éditions Grasset. Je vous ai trouvé excellent chez Augustin Trapenard.
Je vais essayer de faire mieux.
Quand je vous dis ça, vous arrivez à percevoir si je suis sincère ou hypocrite?
Ah, moi je crois absolument tous les compliments qu'on me fait. Je ne pense absolument jamais qu'il soit hypocrite. C'est impossible.
Vous avez bien raison. Alors, Olivier Babot, dans le dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey nous rappelle qu'hypocrisie est un emprunt au bas latin hypocrisis, qui veut d'abord dire jeu de l'acteur, puis qui a signifié feinte, faux semblant. Et l'hypocrisie, c'est donc l'attitude qui consiste à déguiser son véritable caractère, à manifester des opinions, des sentiments et spécialement des vertus qu'on n'a pas, synonyme, dissimulation, duplicité, fausseté, fourberie. L'hypocrisie n'a pas très bonne presse, et pourtant vous en faites un éloge.
Oui, alors encore une fois, c'est sans doute mon esprit de contradiction et de subversion. L'hypocrite en grec, c'est l'acteur, c'est celui qui parle sous un masque, et d'ailleurs, en latin, vous savez, persona, c'est le masque de celui qui va parler tout en déguisant sa pensée réelle, et en réalité, on s'en rend plus compte, mais dans la vie, en permanence, et c'est ce que j'appelle l'hypocrisie bénigne, on utilise tous de l'hypocrisie, et en fait, l'hypocrisie, c'est l'autre mot de la représentation partagée, de ce consensus, de ce dont on peut parler, ce dont on ne peut pas parler, par exemple, les excréments, par exemple. Voilà, on a tous des façons, on apprend à nos enfants à cacher ses fonctions naturelles, on apprend la façon dont on va pouvoir se trouver des terrains d'entente au-delà de nos divergences, au-delà de nos différences. Ça aplanit les contradictions et ça nous permet de communiquer.
Charles Danzig.
Je pense que mon livre aurait pu s'appeler « Dictionnaire égoïste des mauvaises manières mondiales » parce que la littérature est la chose qui est là pour révéler l'hypocrisie. Je pense que dans la vie, il y a une bonne et une mauvaise hypocrisie comme le cholestérol, c'est-à-dire que je pense que les gens faibles doivent être hypocrites contre les pouvoirs et en revanche que les pouvoirs doivent être hypocrite pour éviter de nous taper trop dessus. Il y a d'ailleurs dans mon personnage, dans mon livre, un personnage qui est Arthur Howie, qui était un personnage de Bertolt Brecht, qui est une espèce de para-Hitler comme ça. Et ce qui est très frappant, c'est que Brecht montre comment ce type qui est au pouvoir cesse d'être hypocrite et comment, cessant d'être hypocrite et au pouvoir, il est encore plus violent. Et on assiste à ça maintenant avec Donald Trump. En revanche, la littérature, elle, est là pour révéler, je crois, ce que la vie se cache. Par exemple, il a fallu attendre les années 1920 pour que le premier personnage de handicapé mental arrive dans la littérature et soit représenté. C'est dans un roman de William Faulkner. Vous imaginez ça, des handicapés mentaux, il y en a depuis la naissance du monde. Et on les tenait cachés. Et par une espèce d'hypocrisie, de bienséance, eh ben, la littérature sert à ça. À révéler ce que la vie veut se cacher et qui paraît très mal élevé.
Olivier Babot, pourquoi est-il urgent pour vous de protéger l'hypocrisie?
Parce que l'impression que j'ai, c'est que l'hypocrisie est entrée en crise. C'est qu'on avait autrefois une sorte de génie de l'hypocrisie. Je prends beaucoup d'exemples. Je parle évidemment de l'Église catholique. On peut bien citer le temps des Borgia, c'est celui dont on... Mais finalement, ça fait très très longtemps que l'hypocrisie dans l'Église a été développée et a atteint un art extraordinaire où vous faisiez des choses totalement différentes de ce que vous prêchiez par ailleurs. Ce génie de l'hypocrisie repose sur une compréhension, on pourrait dire, de la complexité du monde, du chaos réel et de l'ordre qu'on doit créer à partir de là. L'hypocrisie maligne, c'est cette hypocrisie qui va justement être une hypocrisie qui enferme. Alors on parlait de dictateur, Staline, il n'y avait pas plus hypocrite. Il y avait d'ailleurs, je crois que c'est une citation dans mon livre où on dit on regarde Staline, on sait qu'il nous ment, on sait qu'il sait que nous savons, et tout le monde se joue effectivement un jeu terrible dans lequel nous sommes tous enfermés. C'est une espèce de prison collective. L'hypocrisie qui est fondée sur l'idée que je vais être le seul à dénoncer l'hypocrisie, justement, c'est celle du puritain, et c'est ce retour du néo-puritanisme, du Tartuffe, de celui qui va dire, il y en a toujours eu dans l'histoire, des poussées puritaines, comme Savonarole, évidemment, et puis le luthéranisme, c'est celui qui va dire, moi je suis le seul non-hypocrite, vous êtes tous hypocrites, et je vais rétablir la vérité, sachant que cette rétablissement de la vérité est toujours l'hypocrisie suprême.
Quelle est l'hypocrisie que vous défendez? Et vous dites dans votre livre à plusieurs reprises que de protéger l'hypocrisie, c'est une nécessité dans notre monde obsédé par la transparence.
On parlait littérature tout à l'heure. Évidemment, la fonction de l'art, c'est de permettre cette conciliation des deux. Il y a cette phrase. Alors, je suis plus très sûr qu'elle soit dans Proust. Enfin, en tout cas, c'est Monterland qui parle de sincérité successive. Proust, il parle plutôt des intermittences du cœur. Mais je crois quelque part, il faudrait que je recherche dans la recherche précisément, est-ce qu'il parle de ces sincérités successives? En tout cas, il y a cette idée du fait que on n'est pas pareil tout le temps. Que selon le moment de la journée, selon les personnes avec qui on est différent. Il faut accepter que l'homme n'est pas monolithique, qu'on est plusieurs personnes, qu'on n'est pas le même selon les moments. Et cette hypocrisie, ça nous permet justement d'être dans les rapports sociaux, pour dire de niveler cette relation à l'autre et de donner un visage social qui nous permette de protéger notre intériorité qui est différente, notre vrai moi qui est mouvant, et puis de créer un ordre collectif qui permet la société, c'est celle-là que je défends.
Et puis nous vivons dans un monde numérique qui n'accepte plus trop la duplicité, la complexité.
Alors c'est très paradoxal parce que effectivement au début on a pensé que le numérique allait révéler, allait être un révélateur extraordinaire des débats, mais on a compris et des idées. On a compris que c'était un terrible révélateur, un terrible producteur de transparence. Les réseaux sociaux, à la fois, ils révèlent ce que vous êtes, et à la fois, on a vu aussi qu'ils créent de nouvelles mises en scène, mais des mises en scène qui vous enferment. Si vous êtes un jeune aujourd'hui et que vous ne faites pas la mise en scène convenue sur Snapchat ou sur Instagram, vous êtes ostracisé, vous êtes exclu du groupe. Donc, il faut faire la belle photo qui va bien au moment des vacances. Et donc, vous avez un retour négatif de cette hypocrisie maligne, cette hypocrisie, encore une fois, qui enferme, qui n'est pas l'hypocrisie créatrice de liberté.
Charles Danzig.
Oui, ça dépend de qui on parle et qui parle, quoi, parce que sur les réseaux sociaux, on sait très bien que c'est un défouloir, un narcissisme blessé. Il suffit de voir, d'ailleurs, la chose très très amusante, quand si je mourais à l'instant, vous verriez sur Facebook tous les gens qui ne me connaissent pas et qui adressent des condoléances à ma famille. C'est
le fameux RIP, oui, Rest in Peace.
Mais donc ça, c'est plutôt le porte-parole du narcissisme universel. Je pense pas qu'on puisse se fonder sur la bêtise pour raisonner, parce qu'à ce moment moment-là, on descend très très bas. Mais l'hypocrisie en matière de... Par exemple, si vous prenez, vous parliez de puritanisme, le roman de l'hypocrisie, le plus grand roman de l'hypocrisie, peut-être c'est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, qui était un romancier américain.
Pourquoi c'est un grand roman de l'hypocrisie?
C'est le grand roman de l'hypocrisie parce que c'est l'histoire d'une femme dans son village dans l'est des États-Unis qui est ostracisée. On sait qu'elle porte une lettre infamante qui lui a été tatouée sur l'épaule à la suite d'une faute qu'elle a commise. Et cette faute, le génie de Nathaniel Hawthorne est de ne jamais dire quelle est la lettre. La lettre, évidemment, c'est la lettre A pour adultère. Et dans tout le roman, il montre de manière géniale comment l'hypocrisie se met en place et comment l'hypocrisie est un phénomène collectif. On croit que l'hypocrisie est un phénomène individuel. Pas du tout. L'hypocrisie n'existe qu'à partir du moment où il y a trois personnes. Si entre vous et moi, on est ensemble, ou entre Eric et moi, il n'y aura aucune hypocrisie parce qu'on se dira les choses plus franchement. Dès qu'il y a un tiers, l'hypocrisie entre en jeu. Et là, on voit tout le village s'entendre pour ostraciser cette femme sans rien dire de ce qu'elle a fait. Et elle-même jouait de l'hypocrisie d'un prêtre dont on se rendra compte qu'il est le père de l'enfant.
Olivier Babot, vous êtes d'accord avec ça?
Évidemment. Et alors ça me fait penser que vous avez beaucoup d'auteurs qui ont utilisé la littérature et l'hypocrisie dans la littérature. Et moi, je pense à Henry James, par exemple, qui tourne toujours autour du sujet. Évidemment, à Thomas Mann aussi. André Gide, même si après il a fait Coridon. Donc, évidemment, on parle de l'homosexualité à une époque où, pour aborder ce sujet, il fallait utiliser, on pourrait dire, le contournement. Et c'est ce qu'a fait Proust, évidemment, à sa manière aussi.
Non, mais ça, c'est pas de l'hypocrisie, c'est de la tactique.
C'est une tactique hypocrite, mais qui est finalement assez efficace. Alors, moi, quand je parle d'hypocrisie, je pense dans Belle du Seigneur, à ce moment qui m'a frappé quand je l'avais lu, où Ariane, qui est avec Solal, donc ils sont tous les deux en amoureux, et puis elle a des borborygmes terribles, et c'est le rappel de la réalité qui casse l'espèce de rêve romantique qu'ils avaient. Pour moi, c'est le rêve romantique hypocrite qu'ils se sont construits, et le génie de l'auteur, évidemment, de Cohen, c'est de révéler la vanité de cette représentation partagée, tout en montrant combien elle est puissante.
On reviendra tout à l'heure sur la place de l'hypocrisie dans la séduction. Charles Dantzig.
Sauf que Cohen, dans le livre, il est pour. C'est-à-dire que Belle du Seigneur, c'est un roman, en réalité, c'est un roman médiéval. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui sont enfermés dans une maison exactement comme dans un roman médiéval. Et c'est au contraire l'apothéose de l'éloge de l'hypocrisie dans le sens où elle est une attention à l'autre. Il y a une scène très très jolie où le garçon va s'éloigner pour pisser parce qu'il ne veut pas que Ariane l'entende et entende le bruit par un comble de délicatesse qui peut être traité d'hypocrisie. Mais c'est le retour du roman courtois, Belle du Seigneur, et c'est au contraire, c'est une sculpture d'hypocrisie.
On le verra tout à l'heure, Olivier Babot, l'hypocrisie, c'est une vertu qui nous empêche de nous entretuer en société. Hein.
Oui, c'est ce que je crois profondément. C'est-à-dire, on ne peut pas en permanence dire à tout le monde ce qu'on pense réellement d'eux. On ne peut pas d'ailleurs, et c'est, vous savez, ce qu'on appelle les small talks en anglais. On n'a pas de mots vraiment en français pour dire ça. La petite conversation, le bavardage que vous avez avec votre boulanger sur le temps. On sait très bien que le temps n'a pas d'importance. Mais on sait aussi que ça crée du lien et que c'est extrêmement important de faire comme si, ou quand on parle avec le chauffeur de taxi, de faire comme si ce qu'on disait était important. Et je crois aussi que c'est fondamental et je trouve extrêmement puissant le fait de parler à la jolie fille ou à la personne dont vous avez envie, si vous voulez, quelle qu'elle soit, et à quelqu'un dont vous n'avez pas envie, je trouve que ça crée justement cette ambiguïté qui est extraordinaire et qui permet aussi, c'est un peu une sorte de ciment de la société, et c'est évidemment l'hypocrisie bénigne que je défends.
Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle.
Oui, parmi les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, beaucoup font allusion à la politesse. Est-ce que vous diriez que la politesse est le ciment de l'hypocrisie? Est-ce qu'elle va avec? Est-ce qu'elle va de soi? Quand on a un enfant qui, par définition, ne sait pas ce que c'est que l'hypocrisie, on lui dit attention, tu vas chez ton petit copain pour l'anniversaire, tu penses bien à remercier la maman, le gâteau était très bon, tu ne dis surtout pas qu'il était mauvais. Donc ça, c'est quoi? C'est lui apprendre les relations sociales, la mise en scène, les conventions, la politesse ou une forme d'hypocrisie?
En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, si on réfléchit, que c'est une forme d'hypocrisie qu'on lui apprend. Si tu vas recevoir le cadeau, tu vas remercier, même si tu n'étais pas content, tu vas quand même dire. Hein, c'est un peu le mensonge pieux, hein, peut-être autrefois. Hein, tu vas dire que la tarte était très bonne, etc. En fait, on apprend ça, évidemment, aux enfants. Et je crois que la politesse, et on parlait tout à l'heure du risque aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on explique qu'il faut dire toujours ce qu'on a sur le cœur, qu'il faut venir comme on est, comme dit un fameux restaurant, n'est-ce pas? Alors qu'on on est personne, en fait. C'est ça, la réalité, c'est qu'on est plusieurs personnes à la fois et qu'on veut nous faire croire qu'on est monolithique et c'est pas vrai.
On reviendra tout à l'heure sur la question de la politesse. Claire Destacan, Clara Marliou et Julien Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Et je vous propose d'écouter une chanson de 1964. Cette année-là naissait la comédienne et réalisatrice Naomi Lovski et disparaissait le compositeur Cole Porter.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Serge Gainsbourg, couleur café.
Je crois que j'ai atteint le paroxysme.
Grand bien vous fasse.
Ouais, c'est pas faux.
Sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse aux bienfaits de l'hypocrisie.
Ah, mais non, t'es pas meuf.
Nous narguent, mon adjudant, sont tous des hypocrites.
Bon, d'accord, t'as parlé très, très, très régulier.
Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards.
J'ai changé.
Hypocrite.
J'ai changé parce que le pouvoir m'a changé.
Monseigneur est beau.
Est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites?
Je flatte. Qu'importe mes désirs, je suis là pour vous servir, mon adjudant-chef.
Eh ben dis donc, faillot sec, hein.
Ouais, va falloir s'aligner, hein.
Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur.
Tu m'emmerdes, il dit à Francesc, ou chier une pendule parce que j'ai dit bonjour, et c'est vrai que je m'en rappelle pas du nom du mec. Bon, bah, et alors?
Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. Je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne venu le place en des cœurs corrompus.
T'es ma mère ! Et Alcès pense qu'il faut pas mentir, mais si une société s'organisait autour du non-mensonge, on se frapperait sur la gueule.
Mixage signé Claire Destacan, Olivier Babou, on se frapperait sur la gueule, hein.
Mais
oui. L'hypocrisie n'existait pas.
Finalement, le misanthrope et Alceste, genre, la meilleure scène, c'est celle-ci où le type, le courtisan, il veut juste qu'on lui dise que ses vers sont bons. Je veux dire, il est pas, personne va le croire, évidemment. Mais, et c'est là qu'Alceste, il trouble le fait. C'est lui qui va casser le jeu social. Et c'est dans Proust, dans Sodome, justement, que, il parle des guermantes et il dit, croire la mobilité réelle, c'était cela, la mauvaise éducation aux yeux des guermantes. C'est toute cette éducation, justement, où ce qu'on dit, évidemment, est différent de ce qu'on pense, mais tout le monde le sait. Et quand tout le monde le sait, ça veut dire que hypocrisie n'est pas mensonge. Hypocrisie n'est pas tromperie. Et ça, c'est très important de le comprendre.
Dites-nous pourquoi?
Bah parce que justement, tout le monde sait qu'il y a hypocrisie. Et à ce moment-là, il y a une sorte de consensus de l'hypocrisie. Ça n'est plus une tromperie. On n'essaye pas de vous escroquer. On n'essaye pas de vous faire croire. Contrairement au Tartuffe, qui lui essaye de vous tromper. C'est vraiment le corps social. Et puis, c'est aussi une célébration quand même de la valeur de ce qui est. Tout à l'heure, il y avait aussi un extrait des Caprices de Marianne. Tous les hommes sont faux, bavards, inconscients, etc. La suite, hein, de la tirade, hein, c'est, mais il est au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits, si affreux. On est souvent trompés en amour, souvent malheureux. Mais mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, on se dit j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé, etc. C'est l'idée que oui, à la fois, on sait très bien que cet ordre, il est totalement illusoire, mais on prend plaisir, on peut quand même prendre plaisir au jeu, comme on prend plaisir au jeu des acteurs et qu'on est ému par leur jeu.
Charles Dantzig.
Il y a deux choses, c'est que d'abord, Lucchini dit, s'il n'y avait pas le mensonge, on se foutrait sur la gueule, mais il oublie que l'hypocrisie, même consensuelle, est d'une violence considérable. C'est une violence, l'hypocrisie. C'est-à-dire que tout dépend de qui l'exerce, encore une fois. On ne peut pas raisonner de manière aussi absolue. Si le faible exerce l'hypocrisie, c'est pour se défendre, et ça va. Si c'est le puissant, c'est encore plus violent que des coups. Et par exemple, Tartuffe est ce cas-là. Le génie de Molière, qui au demeurant est critiquable, mais dans Tartuffe, il a inventé une idée de génie et qui a été un risque considérable, c'est que Tartuffe, il est du côté du pouvoir. Tartuffe, c'est l'homme d'église. Tartuffe est protégé. C'est lui l'hypocrite. Et c'est pas le faible. Et tout d'un coup, il exerce son hypocrisie pour essayer d'exercer son pouvoir. Et ça, c'est le coup de génie de Molière d'avoir montré la chose la plus violente de toutes, qui est l'hypocrisie du pouvoir. Ne vaut-il mieux pas, d'une certaine façon, avoir affaire à des Arthur Howey ou à des Donald Trump qui, au moins, nous montrent leur vulgarité et leur violence crûment.
Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Babeau ?
Oui, et alors, sur le fait que l'hypocrisie peut être une arme de domination et utilisée, c'est l'exemple de Staline dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi une arme d'émancipation, car à travers l'hypocrisie, vous allez pouvoir dénoncer. On peut penser à Beaumarchais, évidemment, et à Figaro, vous allez pouvoir dire beaucoup, beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est aussi le cas de La Flûte Enchantée, hein, qui peut être lu comme une dénonciation de la monarchie, hein, et du système monarchique et aristocratique. Il y a des façons, justement, de dire sous couvert du voile, n'est-ce pas, de la représentation, des choses vraies, et qui vont d'ailleurs être diffusées grâce à ça. Donc elle est aussi émancipatrice.
Mais je ne crois pas que Staline ait été hypocrite. Je pense que Staline était duplice. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire qu'un homme qui envoie 20 millions de personnes se faire estourbir et au vu et au su de tout le monde soit hypocrite. La violence du pouvoir de Staline était franche et nette. Sa duplicité, c'était autre chose. C'était exactement comme celle de Néron ou des empereurs romains. Ils n'ont même pas besoin d'hypocrisie et ils n'en avaient pas. D'ailleurs, ses discours publics étaient tout à fait francs et c'est l'opposé, c'est-à-dire La terrifiante franchise.
Alors, il y a des vérités qu'il vaut mieux garder pour soi. Que pensez-vous de ceux qui vous balancent des choses très franches, très directes, sans détour, sans prendre de pincettes, au nom de leur authenticité, Olivier Babeau? Est-il toujours bon d'être franc du collier? Dois-je dire, par exemple, à un confrère croisé dans les couloirs que son émission était très mauvaise, ou bien que je ne l'aime pas du tout, au nom de mon authenticité et de ma franchise?
La valeur de la franchise viendra du fait que le reste du temps, vous êtes suffisamment hypocrite justement pour ne pas dire la vérité. Donc de temps en temps, ça fait du bien. Et c'est d'autant plus important que le reste du temps, on ne le fait pas. Mais je crois profondément que cette franchise, elle ne serait pas possible tout le temps. Mais pour une bonne raison, c'est que nos personnalités même ne sont pas alignées. Donc on se rendrait compte que nous sommes nous-mêmes chaotiques. Et on peut se comparer à un œuf avec le jaune qui est à l'intérieur, c'est vraiment nous. Mais en fait, non, c'est plutôt un oignon. C'est-à-dire vous pelez l'oignon, il n'y a pas d'oignon à l'intérieur, c'est juste des sommes de couches. Et c'est plutôt à ça, à mon avis, qu'on ressemble.
Charles Dantzig.
Ah, je crois que la franchise est très très comique. Les personnes franches, c'est les personnes les plus comiques de la Terre. C'est-à-dire, ils vous expriment leur vérité parce qu'évidemment, ils sont détenteurs de leur vérité. Et une personne franche, c'est la stupidité même. Il y a un auteur de littérature qui a très bien montré ça et qui d'ailleurs poser des bombes dans les soupières de l'hypocrisie victorienne, c'était Oscar Wilde. Oscar Wilde, dans sa pièce L'importance d'être constant, a créé un personnage merveilleux qui s'appelle Lady Bracknell, qui est une vieille femme pétardière, très réactionnaire et conservatrice, et qui a cette réplique merveilleuse. Très franchement, on lui dit que son neveu est un menteur, elle dit « Algernon, menteur, impossible, il a étudié à Oxford ».
Marie Lerzon, chaîne de Femmes Actuelles, sur l'hypocrisie dans le monde professionnel.
Oui, moi je trouve finalement qu'il ne s'est jamais aussi bien porté. L'hypocrisie va de mieux en mieux quand on voit le développement de services dédiés, de management, de bienveillance dans l'entreprise. On fait attention aux salariés, on organise des événements pour que tout le monde puisse se rencontrer dans les couloirs, les entretiens annuels, on fait extrêmement attention à justement, vous parliez tout à l'heure de l'hypocrisie venant du pouvoir, elle est totalement magnifiée dans le monde de l'entreprise.
Olivier Babeau.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il y a ces deux éléments-là. Vous avez à la fois, pour dire, l'hypocrisie de la novlangue managériale qui enferme, c'est-à-dire les gens où on va tous on va leur faire faire aussi des espèces de séminaires, ils vont tous faire semblant de croire que le truc est important, de faire des jeux et de prendre ça au sérieux. Bon. Et puis vous avez, et je parle de fameux exemples qui est donné par Mintzberg, de Honda qui arrive à pénétrer le marché américain avec ses motos dans les années 50, et à l'époque ils ont raconté combien ça avait été le fruit d'une formidable stratégie réfléchie. Et puis il y a un chercheur qui s'appelle Emmanuel Jacques qui avait fait la recherche et qui avait constaté qu'en fait ça avait été un échec complet, qu'ils avaient absolument rien prévu, que ça a été un coup de bol extraordinaire. En fait, vous avez besoin, quand vous êtes une entreprise, aussi de ces espèces de narrations légitimantes, comme un État, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, ceux qui disent le plus franchement quand ils parlent, en général, c'est les hommes politiques.
Exactement.
C'est assez rigolo.
Ils mentent.
Et quand quelqu'un vous dit franchement, c'est toujours mauvais signe, oui. En général, d'ailleurs. Sinon, il n'aurait pas besoin de le dire. Ou honnêtement. Sinon, vous n'aurez pas besoin de le dire. Mais vous avez aussi un besoin pour ces entreprises de discours qui sont finalement les mythes collectifs que l'entreprise a besoin de partager, un peu comme l'idée que le capitaine doit faire semblant de savoir exactement ce qu'il fait, parce que ça rassure tout le monde et c'est important pour la cohésion de l'équipage.
Au travail, est-il utile de dire à un collègue qu'on n'aime pas du tout sa nouvelle coupe de cheveux, mais doit-on mentir en lui disant que ça lui va très bien, ou doit-on se contenter de mentir par omission, et plus globalement, à quoi bon être méchant ou blessé ou non d'une certaine authenticité?
L'entreprise a ça de commun avec la famille, que vous êtes avec des gens que vous n'avez pas choisis. Donc c'est une sorte de huis clos involontaire qui peut être terrible. Vous le faites quand même souvent par nécessité, alors j'espère pas toujours, vous le faites aussi par choix et parce que vous aimez ce que vous faites, mais vous le faites par nécessité. Si tout le monde disait à tout le monde ce qu'il pensait réellement, moi j'ai pas forcément envie qu'on me dise ce qu'on pense de moi. Moi je suis très content qu'on soit hypocrite avec moi. Regardez, moi, à l'université, c'est bien un lieu, un terrible huis clos aussi, où les gens se haïssent terriblement, mais on a une grande force, c'est qu'on peut ne jamais se croiser ou quasiment. Et en général, on prend bien soin de faire ça. Et donc, j'ai pas du tout envie que moi, que mes collègues qui me haïssent, moi j'aime tout le monde personnellement, mais que mes collègues qui me haïssent me le disent, et je suis très content de cette hypocrisie.
Que dire de l'hypocrisie dans le milieu littéraire, dans le monde des lettres, mon cher Charles Dancing?
Mais il y en a pas, on s'écharpe, c'est le zoo de Vincennes. Mais on parlait de bienveillance et le mot bienveillance a été instrumentalisé par les hypocrites, parce qu'il faut, on a l'air de dire depuis une demi-heure que l'hypocrisie c'est merveilleux, c'est du miel, c'est du sucre, mais l'hypocrisie peut être aussi un moyen de vous poignarder dans le dos. Et le mot bienveillance, c'est un peu comme dans la littérature américaine, le mot innocence. Vous savez, la littérature américaine et les romans sont remplis du mot innocence et de ce lieu commun des romans américains, de l'innocence perdue. Et ça, c'est un peu une espèce de cliché comme ça où les Américains sanglotent sur leur innocence perdue en bombardant le Vietnam et en exterminant les Indiens. J'ai perdu mon innocence.
Bonjour Dominique Picard.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur émérite en psychologie sociale. Vous avez notamment publié un excellent Que sais-je, Politesse, savoir-vivre et relations sociales. Cher Dominique Picard, la politesse est la forme la plus admise d'hypocrisie?
Personnellement, je dirais pas ça, si vous voulez bien. Parce que je pense qu'il y a un grand malentendu quand on parle d'hypocrisie à propos de la politesse. Ou alors il faut ajouter social. Mais l'essentiel, c'est dans le social. Je m'explique. Quand on parle d'hypocrisie, on parle d'un jugement moral sur des individus. Et avec quelque chose de très manichéen, mentir, c'est pas bien. Et dire la vérité, c'est bien. Mais la politesse, elle s'intéresse pas aux individus ou alors simplement par accroc. En fait, la politesse, elle s'intéresse à la relation qu'il y a entre les individus et même à la relation sociale et pas intime. Alors son but, c'est pas que les gens soient bons ou pas bons, bien ou pas bien. Le but de la politesse, c'est que la relation soit fluide, facile et sans accroc. Et pour ça, il faut que les gens qui sont en relation s'y sentent bien, c'est-à-dire qu'ils s'y sentent accueillis, reconnus et valorisés. Alors, pour se sentir accueillis, ben c'est mieux quand on vous sourit, c'est mieux quand on vous répond bonjour, quand vous dites bonjour, c'est mieux quand on vous répond, mais je vous en prie, ce n'est rien, quand on dit pardon.
Même si on ne le pense pas, même si on ne le pense pas, même si on ne le pense pas, et même si on n'en a pas envie, c'est se forcer sa nature.
Mais ça n'a pas d'importance du point de vue de la politesse. Si en plus on le pense, eh ben tant mieux, ça sera plus facile. Mais ça n'a pas d'importance qu'on le pense ou pas. Parce que ce qui compte, c'est que la relation se passe bien.
Olivier Babeau, pour vous, vous l'écrivez dans votre livre, « La politesse rend plus supportable les liens sociaux ». Vous écrivez « Sans cette médiation du voile hypocrite, les rencontres avec tout autre que nos proches, amis ou familiers seraient impossibles ».
Oui, regardez le métro. Il y a des conventions terribles hein, dans le métro, terribles ou justement salutaires, qui font qu'on regarde ailleurs, qu'il y a des conventions aussi de distance sociale. Évidemment, c'est Goffman qui avait beaucoup montré
Erwin
ça.
Goffman.
Hein, Erwin, exactement, Goffman. On pourrait penser aussi, je trouve que c'est très intéressant, on ne saurait mieux dire, hein, ce qui vient d'être dit par ma collègue, n'est-ce pas, on n'est pas toujours là pour être dans la vérité. C'est ce que Norbert Elias avait montré dans La Société de Cour aussi. C'est qu'à un moment donné, on est dans l'ordre du jeu social. Et peut-être que l'erreur qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a tellement tous cru qu'il fallait être authentique et que du coup, on est tous à la cool, qu'on est tous là pour être nous-mêmes et qu'il était toujours question de vérité. Et ben ça, c'est quelque chose qui est très nouveau parce que jusqu'à très peu de temps, il n'était question de vérité que dans des cercles extrêmement restreints, dans des moments très particuliers. Tout le reste du temps, c'était de la convention sociale. Alors, c'était peut-être trop, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas assez en quelque sorte.
Dominique Picard.
Oh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et il faut la politesse, celle qu'on a dans le métro ou ailleurs, c'est un code social. Et c'est un code social qui est fait pour la relation, pour qu'elle se passe dans le respect mutuel. Il y a ce mot-là aussi qu'il faut utiliser. Et l'authenticité n'a rien à voir là-dedans, du point de vue de la politesse, mais pas dans l'absolu, bien sûr.
Charles Dantzig.
Je pense qu'il faut établir une distinction entre deux choses qui sont la politesse et le tact. Louis XIV, qui était d'une politesse exquise, vous envoyait à la Bastille avec une révérence. Et ça, c'était la politesse. La politesse, encore une fois, n'empêche pas la violence. Et les écrivains en particulier, qui sont là pour révéler toutes les cachotteries que se fait la société elle-même, sont des grands impolis. La littérature est une grande impolie. En revanche, ce qu'elle tente d'exercer, c'est le tact, parce que en révélant ce qui est caché, elle tente d'être humaine. Parce que toutes ces choses dont nous parlons, l'hypocrisie, la politesse, sont des choses glaciales, froides et uniquement sociales. Et tout acte disparaît de ça. Et je pense que ce que la littérature apporte par sa révélation des hypocrisies néfastes, c'est le tact.
Merci beaucoup Dominique Picard d'être intervenu dans l'émission. Il est temps de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Il n'est pas psychiatre, ça on le sait. Il relève peut-être de la psychiatrie, peut-être. Il s'agit de ces choses presque vues.
Alors, chef vénéré, grand Mamamouchi, icône céleste, Ali, mon préféré, votre intelligence déborde par tous les ports de ce studio et je ne peux que vous féliciter, même si ce n'est pas une surprise, et vous remercier d'avoir invité Olivier Babot, auteur de cet éloge de l'hypocrisie que j'appelais de mes voeux sans imaginer un jour être à ce point satisfait. Et il fallait un homme de votre trempe et de votre tempérament, cher Olivier, pour ainsi applaudir à ce qui est si souvent hué et tous ceux qui se pincent du nez en dénonçant l'hypocrisie ne sont que des hypocrites. Il fallait également un homme de l'envergure d'Ali pour vous servir la soupe, fut-elle si goûteuse. Et il fallait le petit scarabée que je suis pour m'agenouiller à vos pieds et applaudir à vos magnificences. Quant à Charles Dantzig, je n'en dirai rien, car il sait l'amitié que je lui porte opportunément et le talent que je lui reconnais parfois. Mais si vous permettez que je m'immisce dans votre échange digne d'un match opposant Borg et McEnroe pour les plus anciens, ou Nadal et Federer pour les plus jeunes, ou les matchs puissants non d'égal que les envolées magnifiques, et de toute manière, si vous ne me permettez pas, je me passerai de votre permission. Non mais pour qui vous prenez-vous, Ali? Donc je me permets, je voudrais pointer ici une omission flagrante dans votre livre, et je reste mesuré, parce qu'il n'est pas si bien, faut pas exagérer non plus. Donc si jamais votre livre se vend, on ne sait jamais, d'ailleurs vous pouvez vous féliciter de passer dans cette émission, cher Olivier, car Ali, homme vertueux et de bons conseils, fait vendre des livres, à défaut de les faire lire. Mais l'important, de toute manière, est de faire vendre, le reste, franchement, n'a que peu d'importance, on n'est pas là, en tout cas pas moi, pour éduquer les foules, ni leur faire plaisir, ni même leur apporter un peu de grain à moudre pour la réflexion, mais pour que je me satisfasse de mon propre talent et applaudir à celui encore plus impressionnant de mon cher Ali. Donc si votre livre se vend et qu'il faille en venir à une réimpression, alors que personne ne s'est encore demandé s'il avait déjà impressionné quelqu'un, il faudrait y faire quelques ajouts et un en particulier dont je vais faire rapidement état pour peu que j'arrête de digresser en ligne courbe pour ne pas dire en ligne courbette. Des digressions qui ne sont qu'effets de style pour noyer le poisson visqueux du mensonge dans l'eau de l'insincérité. Donc oui, votre livre est incomplet, cher Olivier Barbeau, ce qui est en soi n'est pas très grave, mais bon, tout de même, ça la fout mal un peu, et je vous dis ça parce que je ne l'ai pas lu. Tout de même, puisque j'en ai compris les grandes lignes, je me permets de vous dire la vérité en face avec toute l'hypocrisie qui me caractérise. À vous de faire la part des choses, et je ne doute pas que vous la fassiez, homme de bien que vous êtes, car je ne doute pas non plus que vous sachiez reconnaître le vicieux du vertueux et séparer le dit vrai de l'ivré. Je vous vois venir, cher Olivier, et cette fois c'est vous qui vous pincez le nez, mais comment peut-il savoir qu'il manque quelque chose au livre s'il ne l'a pas lu lui-même ? C'est vous qui parlez, et c'est de moi dont vous parlez, et déjà cette chronique est beaucoup moins brillante. Mais dans le fond, vous avez raison, et si ça se trouve, je vais passer pour un incompétent, alors que tout ce qui m'intéresse, c'est d'être suffisamment flagorneur pour être grassement payé pour cette chronique. Je vais donc m'en tenir là. Il ne sera donc pas dit où vous avez échoué, mais plutôt que cette chronique s'est emmêlée les pinceaux entre vérité et hypocrisie et a prouvé qu'il était difficile de passer de la théorie à la pratique. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Réalité ou fiction, ce sont souvent les mêmes histoires, croire ou ne pas croire, là est la question.
Les choses presque vues d'Éric Libio à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Mamou Face. Relax, the girls is out, the sun in my eyes, the bins are whippy, I cash the cow, relax, 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 relax. The girls is out, the sun in my eyes, the bins are whippy, I cash the cow, relax, 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 relax. Dreams, samurai sword, I'm chopping the weed, expensive, expensive, expensive. The bangs is out, I mumble the raps, I'm selling her weed. The black is the features, my new being queen. They rock all the styles, they told us to leave. An African dog, increasing my jeans, she's showing out. She braiding my rhymes, I'm calling, she picking the climb. The box is all discreet, the box is where I'm scoring. The comfort free, she rock. The berries are black and they wholesome. Jerry's a curl, you know me. My Humpty Dot bump is a norm. She cut me off, the fangs is out. My look in the pouch, she rubbing my foot, I'm geeking out. You know that I'm stupid, I'm crazy in love. Buffy, my baby, she's searching for blood. I'm reaching in sus, I'm taking my time. I'm rolling, extending that clip on my side. Circulation, stimulation. I seen her relaxing her hair for that jaw. Relax, 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 relax. They grappling stars and grappling me. The ba ba ba, the black boy sheen. Relax, 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 relax. Girls is out, the sun in my eyes. The black is rich, they jockin' their style. Hey, hey, oh, when they hangin' over your shoulder, acting like they own you, that raspy, they selling you. Just tell them, man, relax. Yeah, yeah, relax. Yeah, but can we only try and warn you? If we don't stay on you, they might just end up in front of you. I told you, man, relax. Yeah, yeah, relax. Yeah,
yeah, yeah. The skin is black, you need to relax. The styles of hair, you're made to retract. The braids are French, the language I rap. The booty is soft, the panties are one beard down, call me a flirt. Here's how I feel, hands in the dirt.
Et on vient d'écouter Reggie Snow qui interprétait Relax.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et cet après-midi, on s'intéresse aux bienfaits de l'hypocrisie. Olivier Babot, un mail de Maurice qui nous dit « J'ai un collègue qui n'arrête pas de dire qu'il déteste les hypocrites alors qu'il n'arrête pas de critiquer par derrière nos supérieurs hiérarchiques. Dois-je lui dire la vérité ou continuer à être hypocrite avec lui comme si je n'avais rien entendu ?»
Alors, je voulais d'abord commencer par remercier Eric et ça me fait penser, vous savez, il y a un grand critique du 19e siècle qui disait « Je ne lis pas les livres, ça pourrait m'influencer. » C'est exactement ça, donc vraiment merci beaucoup. Alors, c'est ceux qui dénoncent le plus l'hypocrisie qui en général le sont le plus.
J'ai remarqué
malheureusement,
aussi.
C'est comme ça que ça se passe. Donc, alors, faites attention aux gens qui disent ça.
Qu'on le veuille ou non, nous sommes hypocrites. Hein. Je connais personne qui l'assume vraiment, mais on l'est tous, plus ou moins.
Alors, je pensais
ajoute,
tout à
c'est
l'heure,
la géométrie aussi, variable.
Oui, oui, tout à fait. Alors, sur la puissance de l'hypocrisie, je pensais tout à l'heure, vous savez, au livre de François Julien, le sinologue, qui s'appelle Le détour et l'accès, qui est un livre magnifique, qui explique comment la pensée chinoise, différente de la pensée occidentale, montre en contournant et non pas en indiquant. Et donc, c'est encore plus puissant. Et il y a dedans un cas extraordinaire où il y a on dit voilà, le prince Chou est allé au palais d'été. Et il démontre tout ça. Et il montre combien c'est extraordinaire d'avoir dit quelque chose sans le dire. Et bon, finalement, l'hypocrisie, c'est aussi une façon de dire. C'est aussi une façon d'indiquer, mais d'indiquer, comme on le disait tout à l'heure, sans perdre la face, sans faire perdre la face. Et donc, en permettant, on sait très bien d'ailleurs, quand on fait des cours de négociation, qu'il faut toujours permettre à la personne, il faut laisser une porte de sortie. D'ailleurs, je crois que c'est Sun Tzu, puisqu'on parlait des Chinois, qui explique toujours qu'il faut laisser une porte de sortie à l'armée qui part, parce que sinon elle va se battre jusqu'à mourir, et donc c'est une mauvaise idée.
Dans l'art de la guerre.
Dans l'art de la guerre, absolument.
Charles Danzig.
Bah, le problème, c'est que l'hypocrisie, ça mène à la bienséance. Et la bienséance, ça empêche tout dire des choses. Ça empêche en particulier la littérature. Regardez, en ce moment, il y a un cas très particulier avec le journal de Julien Green. Vous savez très bien que Julien Green a publié son journal de son vivant et c'était, je me rappelle, moi je trouvais ça très ennuyeux, le 10 mai 81, Julien Green écrivait « Monsieur François Mitterrand est élu président de la République ». Qui écrit dans son journal intime « Monsieur François Mitterrand » Et c'était un peu compassé comme ça. Et là, vient de publier, donc il était très hypocrite et assez faux. Et là, on vient de publier le journal complet qui est complété de ses histoires d'amour et parfois sexuelles. Alors, ça fait du scandale chez certains, plutôt du côté du petit Jésus, parce qu'ils sont jamais contents qu'on prenne du plaisir. Mais ça révèle, il cesse tout d'un coup d'être hypocrite, et ça révèle Julien Green tel qu'il était complet. C'est-à-dire un homme qui aimait, un homme qui avait des aventures sexuelles, un homme qui mangeait. Et moi, je pense que c'est pour ça que, dans mon livre en particulier, je parle non seulement de littérature, mais d'écrivain. Moi, je ne crois pas que la littérature soit séparée des êtres qui la font, et c'est au contraire une très grande hypocrisie et dangereuse de penser le contraire. Moi, je pense qu'on peut toujours et légitimement opposer aux écrivains ce qu'ils ont dit, parce que le pire, en littérature en particulier, c'est la contradiction entre le dire et le faire. Et donc, on a tout à fait le droit de dire à Jean-Jacques Rousseau, mais comment, monsieur, vous écrivez un traité de l'éducation alors que vous avez abandonné vos enfants? Mais comment, monsieur, vous dites que la langue française n'est pas faite pour l'opéra et aussitôt vous écrivez un opéra en français? Ça, on a le droit de le faire.
Olivier Babeau, il existe une hypocrisie à la française, spécifiquement hexagonale?
Moi, j'ai l'impression que la France a développé un art particulier qui reste encore aujourd'hui et d'ailleurs qui parfois crée des problèmes de communication interculturelle.
C'est quoi la spécificité française?
Le français, par exemple, est un peu froid. Il est perçu comme un peu froid. Par exemple, par les Américains, j'ai eu le cas tout récemment d'une amie américaine qui s'est inquiétée après d'une autre amie en disant « Mais c'est quand même, ils sont un peu froids chez les Babeaux. » Ils disent « Mais ah oui, mais l'autre américaine qui est franco-américaine a dit « Mais attention, parce qu'elle connaît très bien le problème de différence. » Les Américains sont hypocrites, mais d'une autre façon. C'est-à-dire qu'ils sont hypocrites dans l'hyperbole, en disant toujours « c'est formidable ». Et évidemment, les Français sont hypocrites au sens où ils vont plutôt éviter, et c'est l'influence évidemment de la cour, c'est du système curiel, vous allez éviter de montrer vos émotions. Vous n'allez pas trahir vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est encore culturellement assez fort, ces différences. Elles sont assez rigolotes à constater.
Bonjour Anne, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Alors vous êtes plutôt Franche du Collier?
Un petit peu, oui. Mais malheureusement pour moi, j'interviens quand le constat d'hypocrisie est tel que je monte en pression et à ce moment-là, alors évidemment, je n'y vais pas avec des pincettes et c'est à ce moment-là que ça va pas. Et je m'aperçois qu'effectivement, le fait d'être franche et en modérant un petit peu, on arrive à pousser la discussion. Moi, malheureusement, je n'arrive pas à faire ça. Donc, moi, c'est plutôt lors de réunions, la dernière... réunion de, parce que je fais partie d'une association de théâtre amateur. Et je pensais, pour faire avancer les choses, qu'on pouvait dire les choses. Donc, je les préviens par deux fois, ce que l'on peut tout dire. On me répond oui. Et au moment où je commence à m'exprimer parce que je m'aperçois que les gens ne parlent pas dans le sens où on parle en coulisses, eh bien, à ce moment-là, je ramasse des foudres et je m'aperçois que ça ne va pas et qu'on ne peut pas parler en définitive. Mais je l'ai vu aussi au travail.
Mmh. Qu'est-ce que vous avez vu au travail, Anne?
Au travail, dans des réunions de travail où tout doit être lisse et il ne faut pas faire des cas. Et à ce moment-là, moi, je le prends comme quelque chose, si vous voulez, où... ça ne nous donne pas d'importance, on ne nous écoute pas et à ce moment-là, alors que certainement, quand on parle entre collègues par exemple, il y a des gens qui ont des choses intéressantes à dire et le fait de ne pas pouvoir s'exprimer librement, eh bien voilà, moi je me suis heurtée toujours à cette fameuse liberté de parole et voilà, c'est aujourd'hui encore, vous voyez, je suis en retraite et je suis heurtée encore dans ma façon de pouvoir expliquer les choses.
C'est intéressant ce que nous dit Anne, hein, Olivier Babeau. Hein.
Oui, ça me fait penser qu'un art particulièrement hypocrite, c'est celui de la diplomatie. Le diplomate, évidemment, ne dit pas jamais la réalité, mais il dit ce qui va permettre de faire avancer les choses. Et vous savez ce qui était écrit sur les canons de Louis XIV, hein, Ultima ratio regum, la dernière raison du roi, c'est-à-dire que quand justement on n'a pas réussi à parler, eh bien vient la violence, vient le moment de l'affrontement physique. Ben, c'est justement ça qu'évite la politesse, qu'évite l'hypocrisie, dont la politesse est une des formes.
Charles Danzig, Anne est heurtée par l'hypocrisie auquel elle se heurte dans le monde du travail.
Ce que je comprends, évidemment, c'était exaspérant, et les réactions peuvent être disproportionnées à cause de ça. Un écrivain était comme ça, qui était Pier Paolo Pasolini. Pasolini était le plus grand ennemi de l'hypocrisie en Italie de son temps qui puisse exister. Et lui, sa manière de réagir à ça, c'était le scandale. C'était un organisateur de scandale parce qu'il pensait qu'il fallait faire d'énormes tapages pour bousculer les choses. Et toute sa vie a été faite de ça. Et c'était en cela que c'était un vrai homme d'avant-garde. C'est-à-dire, il prenait les risques, il allait au premier plan, il prenait les coups pour dire les choses. Et hélas, d'une certaine façon, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien car tous les scandales organisés par Pasolini, dont il a d'ailleurs beaucoup souffert, évidemment, il y a eu beaucoup de procès, on pense même qu'il a peut-être été assassiné à cause de son dernier roman qui révélait les comportements de l'organisation d'État des pétroles italiens en particulier, ou qui allait le révéler puisqu'il n'était pas encore publié. Cette organisation perpétuelle de scandales faisait un match de boxe, mais que les gens ne suivent pas parce que les gens sont moins courageux que Pasolini.
Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle.
Oui, concernant l'hypocrisie, je reviens sur le monde professionnel et j'allais dire presque la stratégie des entreprises. Je prendrai un exemple. On voit depuis plusieurs années se développer, grâce aux réseaux sociaux, on y reviendra sans doute tout à l'heure, ce qu'on appelle le mouvement du body positive. C'est-à-dire l'acceptation de soi, des femmes qui se mettent en scène avec des formes qui ne sont pas celles conventionnellement mises en œuvre dans la presse notamment, au cinéma aussi. Et on voit ces femmes qui disent « je m'accepte comme je suis » et là, on a vu arriver des entreprises en masse qui ont, avec la plus grande des hypocrisies, dit « mais c'est formidable, nous allons mettre en scène des mannequins beaucoup plus rondes, on va faire vendre, parce que c'est quand même bien ça le but ». Il n'aurait jamais fait spontanément si ce mouvement n'avait pas pris de l'ampleur et n'était pas massivement suivi par les jeunes aujourd'hui.
Olivier Babot.
Oui, c'est une sorte d'éthique washing, de greenwashing, comme, comme il y a du greenwashing, etc. Les entreprises, effectivement, vont donner aux gens ce qu'ils demandent. Donc s'ils demandent à un moment donné une authenticité particulière, mais encore une fois, il n'y a pas d'authenticité, c'est juste une forme d'hypocrisie différente, d'une forme de mise en scène collective, elles vont donner ces formes de mise en scène et à chaque fois on dit c'est l'authenticité. D'ailleurs en art, on passe son temps à dire, quand on fait l'histoire de l'art, ça y est là, ils ont découvert le moment où on va faire du réalisme, on va faire la vérité. Puis petit à petit, à chaque fois on dit mais non, finalement c'était des conventions, on va faire une autre vérité. Mais non, parce qu'il n'y en a jamais, évidemment.
Merci beaucoup Anne de nous avoir appelé. Eric Libio.
Oui, je me demandais si est-ce que dans la franchise, il n'y a pas un jugement qui peut paraître prétentieux parfois, qu'il n'y aurait finalement pas dans l'hypocrisie, ou parce qu'on peut tout dire et tout emballer et que justement ça passerait mieux.
Bah, dans la franchise, il y a une brutalité en tout cas. Celui qui est franc, en réalité, vous avez raison. Ce qui se passe, c'est que les deux ont tort, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que celui qui est franc estime avoir la vérité et l'a dit de manière brutale, mais celui qui est hypocrite estime avoir la vérité aussi et l'insinue de manière hypocrite. Au fond, c'est deux faces du même vice, probablement.
Et moi, je trouve qu'il y a dans certaines formes d'hypocrisie aussi une forme de suspension du jugement. C'est-à-dire que on est hypocrite parce que, au fond, on n'a pas d'avis sur la question. Et donc, comme on peut discuter, on est à une table de mariage, vous êtes à des gens, vous n'êtes pas choisis non plus. Vous avez une soirée, vous avez trois heures à tirer ensemble. Vous pouvez pas quitter la table, c'est assez difficile. Et donc, vous allez accepter, vous allez faire semblant de vous intéresser, ça c'est de la politesse. Puis vous allez accepter, pourquoi pas, les divergences politiques. Vous allez dire, oh là, je vais pas me partir dans une explication. Je vais pas essayer de le convaincre. Parfois aussi, ça vous achète du temps et puis ça vous permet d'hésiter vous-même, c'est possible aussi.
Je pense qu'il y a ce qui est important, c'est d'avoir une manière intelligente de dire les choses indirectement. Et je dis ça à Ali parce que j'avais cité un écrivain que je crois que vous aimez beaucoup, qui est Dorothy Parker.
Ah, j'adore Dorothy Parker.
Et Dorothy Parker était la reine du crochet du gauche. Je dis de gauche parce qu'elle était de gauche. Et un jour, elle s'adresse à un jeune réactionnaire qui tenait des discours à la Zemmour devant elle et elle lui dit d'une manière prodigieuse, elle lui dit « arrêtez de voir la vie en rose ». Voilà une manière indirecte de dire une chose intelligente.
Marguerite nous dit sans hypocrisie, point de survie. Olivier Babot, sans hypocrisie, point de séduction, en tout cas dans les premières phases de la séduction. Les futurs amants ne sont pas là pour se dire leurs quatre vérités. On ferme les yeux sur des défauts physiques ou psychiques, on ment par omission ou on ment tout court. Là, l'hypocrisie a une fonction de lubrifiant. Pardonnez-moi.
J'aurais pas oser
entre les amoureux,
faire celle-ci,
c'est sorti comme ça, pardonnez-moi.
Oui, oui. Oh alors évidemment, s'il y a bien un truc qui doit énormément tout à l'hypocrisie, c'est le sexe, évidemment. Le sexe ne se déploie, on sait que c'est 25% des requêtes sur Internet, hein, le sexe est un quart, que c'est, je pense, quelque chose comme 30% de la bande passante, enfin, c'est absolument énorme. Hein. Mais sans qu'on le dise, évidemment, et puis on le cache en particulier, évidemment, aux enfants qui vont petit à petit le découvrir. La séduction se joue à travers des jeux de mise en scène extrêmement réglés. Et alors, je prends dans mon livre ce fameux exemple de « tu veux prendre un dernier verre ». Alors tout le monde sait ce que ça veut dire. On n'est pas là dans le mensonge.
On n'essaye pas de
dire.
Voilà, ça veut dire quoi?
Celui ou celle qui a pas compris, il est pas sorti de sa caverne depuis un moment. Donc tout le monde a compris. Mais d'un autre côté, vous n'auriez pas pu dire la vérité. Mmh. Est-ce que tu montes? J'aimerais conclure. C'est pas possible. Ouais. Vous voyez, vous pouvez pas dire ça. Et donc cette espèce de mise en scène romantique, chevaleresque, n'est-ce pas? Elle est importante, je crois, pour les deux parties qui, dans un premier temps, tout du moins, après l'histoire du couple, c'est celui de l'acceptation évidemment de ses limites et de ses défauts. Hein. Dans un premier temps, tout le monde sait qu'on va forcément présenter d'abord les choses plutôt positives, et c'est accepté, je crois, des deux côtés.
Charles Dantzig.
Il faut voir de quoi on parle quand on parle de séduction. Je pense que la séduction hétérosexuelle est une comédie remplie d'hypocrisie, et j'ai assez tendance à penser que la séduction homosexuelle n'existe pas. Il n'y a pas de séduction, on ne cherche pas à séduire et à projeter ses mensonges. Il y a un écrivain qui a très bien montré la comédie de la séduction, c'est Arthur Schnitzler dans La Ronde, et qui montre comment précisément, lui raisonnait pas en termes d'hétéro ou pas, mais quand même ça n'est que des hétéros, et comment se met en place un système d'abus par la séduction.
Olivier Babeau, on l'aura compris ce matin, vous ne défendez pas l'hypocrisie maligne, mais une hypocrisie plus douce. Et la deuxième partie de votre éloge de l'hypocrisie est politique. Vous redoutez qu'advienne une société orwellienne de la transparence. Vous craignez une société totalitaire de la conformité qui balayerait toute forme d'hypocrisie.
Oui, c'est mon obsession moi depuis très longtemps, parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la transgression, et pour moi la roue de l'histoire qui fonctionne grâce à cette transgression actionnée par la différence entre justement les niveaux de discours, risque de s'arrêter.
Merci beaucoup Olivier Babeau, je recommande votre éloge de l'hypocrisie. Merci Charles Dantzig d'être intervenu cet après-midi. Demain à 14h, on s'intéresse à la sagesse des contes avec Henri Gougaud.